partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Axel Maugé.
Dans cette première émission sur Jean Musset, Axel Maugé, auteur d'un essai qui s'intitule « Les élites argentines et la France », Paris, édition de l'Harmattan 2004, évoque un éditeur français au pays des gauchos. Dans les émissions précédentes, il m'a été donné de rencontrer plusieurs personnalités argentines qui apprécient la France. Leurs témoignages valent leur pesant d'or. Aussi, à présent, m'apparaît-il intéressant de savoir ce que les Français installés au pays des gauchos pensent à leur tour de leurs expériences. Juste avant mon départ pour l'Argentine, un excellent ami m'a recommandé à l'un des hommes parmi les plus respectés de la communauté française installée dans ce pays, son nom Jean Fano. Ce Français, né en Chine, âgé aujourd'hui de près de 85 ans, est un personnage, paraît-il, haut en couleur. Après avoir bourlingué ici et là, ce disciple de Blaise Cendrars a choisi de s'installer à Buenos Aires en 1945. Depuis de nombreuses années, il représente la société Arjomari, devenue maintenant Arjo Wiggins, un géant mondial dans le domaine du papier. Jean Fano, absent de Buenos Aires, durant mon séjour, a cependant fait le nécessaire pour que je sois accueilli le mieux du monde. C'est donc grâce à lui que je me dirige ce matin vers les bureaux de la maison Edicial, située sur l'avenue Rivadavia. Jean Musset, l'homme qui me reçoit, est fort courtois, ce que j'apprécie d'emblée. Point besoin de le connaître depuis 10 ans pour se rendre compte que ce Français cultivé possède les qualités d'un chef. Sympathique, spirituel, doté d'un physique avantageux, lequel accueille à la fois certaines des qualités d'un Maurice Chevalier et celles d'un Jean Gabin, il n'est pas du genre à s'en laisser compter. Son visage plein, harmonieux, sensuel, est éclairé par des yeux vifs comme ceux d'un chat. Ses mains bien dessinées peuvent certainement être tantôt douces comme le miel, tantôt fermes comme un étau. Habillé d'un tweed anglais aux couleurs d'automne, Jean Musset semble ne pas avoir peur d'aller au charbon. Je l'ai deviné tout de suite. Ce monsieur a une approche stratégique de la vie et du monde, approche servie d'abord par une volonté, ensuite par une qualité majeure, le sens du contact humain. La ressemblance physique avec Maurice Chevalier met en valeur l'aspect séducteur, l'habileté et la vivacité du personnage. La ressemblance avec Jean Gabin met en évidence la carapace, la solidité, l'endurance. Son élégance naturelle le rapproche de Maurice Chevalier, tandis que son caractère de décideur l'apparente plutôt à Jean Gabin. Non sans humour, il peint son autoportrait en ne cachant pas qu'avant de connaître sa femme, il a été attiré par le sexe dit faible. Il prend même un vif plaisir à s'étendre sur le sujet. Jusqu'à son mariage en 1979, il collectionnait avec un bel appétit les dames de Madrid à Paris, en passant par Buenos Aires. Il aurait pu illustrer avec brio le héros interprété par Charles Denner dans « L'homme qui aimait les femmes », film de Truffaut. Il avoue avec gourmandise et un certain sourire avoir conquis celle qui allait devenir sa femme ainsi « Ai-je affaire à une dame ou à une demoiselle ?» La réponse, une fois donnée, lui convenant, ayant remisé toute prudence au vestiaire, Jean Musset a invité la demoiselle à l'accompagner à une partie de golf. Pourquoi est-il venu en Argentine? Tant pis pour les légendes romantiques, en réalité, il n'a pas débarqué dans ce pays afin de rejoindre une maîtresse, non. Il a été plus prosaïquement envoyé en 1960 afin de redresser la situation d'Hachette Argentine, devenue Edicial depuis. Au fil des années, il a restructuré la société, si bien qu'aujourd'hui, elle est solidement implantée et emploie une 50aine de personnes. Dans ce genre d'entretien, il est passionnant de découvrir un personnage qui, s'il vous prend sympathie, vous racontera des événements que ses proches ne connaissent pas forcément. Il me faut souligner ici que ce monsieur a de qui tenir. En 1914, son père, Pierre Musset, s'engagea volontairement à 16 ans et demi au front. Son courage fut tellement apprécié qu'à 18 ans et demi, ses chefs décidèrent de le nommer officier. Aussi devint-il le plus jeune officier de France. On croit rêver. Déjà, des récits célèbres reviennent effleurer ma conscience, le diable au corps de Raymond Radiguet, ou l'équipage de Joseph Kessel, tout un pan de l'histoire littéraire française du début du siècle ressurgit, mémoire oblige, les aventures vécues par Jean Renoir et qui l'ont inspiré pour réaliser l'un de ses films clés, La Grande Illusion, avec des acteurs exceptionnels tels que Pierre Fresnay, Jean Gabin et Eric von Stroheim. N'en finissent pas de m'enchanter. Le souvenir de la Grande Guerre comme celui des as de l'aviation me rappelle le visage magnifique de Mermoz, dont Joseph Kessel a si bien su écrire la vie. Ils ont d'ailleurs tous les deux vécu un certain temps en Argentine. On comprend que l'épopée, même lointaine de l'aéropostale, garde une saveur discrète mais inoubliable dans la capitale de l'Argentine. Les mains presque nues, telles des chevaliers de la table ronde, ces héros affrontaient le ciel nuit et jour avec une audace sans pareille. Puisque j'évoque Kessel, je vous conseille de lire la solide biographie qu'Yves Courrière lui a consacrée. Mais revenons au père de Jean Musset, qui après la guerre suit en 1920 le général Maxime Weygand en Pologne. Il décide de s'y installer et de 1920 à 1939 dirige une mine. Surpris à Varsovie le 2 septembre 1939, il participe avec Bertrand de Jouvenel à des reportages sur le début de cette guerre éclair avant de réussir à regagner la France en passant par la Roumanie. Après la victoire alliée, il occupe la fonction d'administrateur général à François sous les ordres de Philippe Vianney. J'allais oublier de signaler que le propre frère aîné de Jean Musset s'est échappé de France, lui, en 1943, en franchissant clandestinement la frontière espagnole avec l'intention de rejoindre les forces françaises libres. À la fin du terrible conflit, 119 hommes seulement sur les 2000 qui s'étaient engagés dans son unité du 1er régiment RCP de chasseurs-parachutistes, une unité de choc assemblée au Maroc, survécurent. Et quand je pense que l'Argentine où je me trouve a délivré jadis sur l'ordre du général Juan Perón, 10 000 passeports vierges afin de faciliter la fuite des nazis vaincus, je reste un instant médusé. Cela dit, il ne faudrait pas taire que durant le conflit, bon nombre d'Argentins ont aidé financièrement la France libre, pas moins de 800 d'entre eux, le plus gros contingent venu d'un pays étranger, se sont enrôlés dans les troupes gaullistes, étrange monde où tout est si paradoxal. Appelé à son tour en Algérie, le jeune Jean Musset découvre ce que c'est que la guerre. Aujourd'hui, fort de son expérience passée, l'ancien sous-lieutenant ne mâche pas ses mots sur le drame qui d'ailleurs continue. Il suffit de comparer, souligne-t-il, les relations difficiles de la France et de l'Algérie avec celles qu'entretient aujourd'hui notre pays avec le Maroc et la Tunisie, pour en apprécier la différence. Le dilemme vécu jour après jour par Albert Camus revient s'infiltrer dans ma conscience. Pauvre Camus, dont l'œuvre est souvent poignante. Il a dû réellement souffrir en suivant les soubresauts de l'Algérie. Il est une autre lecture de choix, plus nuancée qu'il n'y paraît de prime abord. Pour essayer de mieux comprendre ce pays déchiré par la guerre civile, il s'agit de la trilogie de Jean Lartégui, Les Centurions, Les Mercenaires et Les Prétoriens. Ces livres sont une mine de renseignements. Avec un même élan, ils dévoilent d'une part nombre de faits obscurs, de compromissions, de lâcheté ou d'actes courageux et insistent d'autre part sur le professionnalisme de certains chefs avisés soucieux d'extirper la haine, celle qui empêche de dialoguer avec les autres. Mark Robson, un réalisateur américain, eut l'idée d'adapter le best-seller de Jean Lartégui Les Centurions sous le titre de Lost Command. En 1966, Alain Delon, Maurice René et Anthony King en sont les principales vedettes. Devant un tel drame de l'incompréhension, comment oublier une seconde, l'essai d'Albert Mémy qui s'intitule « Portrait du colonisé ». Jean Musset se souvient, comme si c'était hier, des paroles prononcées devant lui en 1960 par Félix Gaillard sur le général « De Gaulle fera l'indépendance de l'Algérie car il est le seul à pouvoir la réaliser ». Continuons notre tour d'horizon. Nous abordons la situation actuelle de la langue française en Argentine. Quelle place occupe-t-elle ? Guerre bonne, me répond sans hésiter Jean Musset. Le français n'étant plus une langue obligatoire, il est compréhensible que l'Alliance française, les collèges et les universités reçoivent moins de candidats, surtout dans un contexte de crise économique aiguë. En écoutant mon interlocuteur, je me demande s'il s'agit plus du français qui est en perte de vitesse, faute de moyens, ou de l'image longtemps comble de séduction de la France qui attire moins. En outre, ajoute Jean Musset, l'aide en faveur du livre français a terriblement diminué, voire cessé. Par rapport au livre anglais, le livre d'art français vaut 30% plus cher à cause des tirages moins importants. Autre constatation, le roman français, jadis attendu par la majorité des gens cultivés, suscite moins d'engouement, moins de traductions. Le phénomène du nouveau roman est passé par là. Mon hôte n'a pas tort de penser que le roman français contemporain n'offre pas toujours des histoires enlevées. En revanche, il plaît grâce à un style recherché, souvent absent des œuvres anglo-saxonnes. N'empêche que le style même éblouissant d'un auteur, mais dont le livre ne propose pas une histoire solide, haletante, ne suffit pas à accrocher les lecteurs. Pour Jean Musset, si l'on veut relancer le français à l'échelle mondiale, il n'y a pas de recette magique. Il faut, entre autres, redonner sa place à l'enseignement. Dans un contexte de société où les gens sont pressés et regardent beaucoup la télévision, il n'est guère étonnant qu'ils n'aient pas envie de lire ni de s'intéresser aux livres français. Compte tenu de la situation, il serait temps que nos éditeurs acceptent de proposer leurs livres à l'étranger au même prix que celui pratiqué en France. En prenant une telle décision, ils doubleraient leurs ventes. Au départ, même si la marge est plus faible, ils s'y retrouveraient grâce à la quantité écoulée. Mon interlocuteur reconnaît que pour être présent sur le marché américain, il lui arrive de concéder jusqu'à 60% de remise à son distributeur. Il en résulte que ses bénéfices sont faibles, mais au moins les livres français conservent leur place dans les meilleures bibliothèques universitaires. Un autre facteur explique la baisse de l'influence française en Argentine par le fait que pendant longtemps, la France ne s'est pas suffisamment intéressée à ce pays. Par bonheur, la situation est en train de changer. Et puis, ce que Jean Musset peut difficilement me révéler, et ce que j'ai appris grâce à un responsable lié aux services officiels, c'est que les coûts de gestion sont fort onéreux en Argentine, pays où règne dame corruption. Ce responsable, dont je tairai évidemment le nom, m'a expliqué qu'en Amérique du Sud, ce concept de corruption apparaît normal. Il arrive même que les policiers se taxent entre eux. Par exemple, certains commissaires de quartier payent une redevance à leurs supérieurs pour avoir été affectés dans une zone, disons, rentable. Quant aux employés de la douane, ils gratouillent sur toutes les marchandises. Aussi, l'argent prélevé rejoint-il plus aisément les poches de gabelous peu scrupuleux que le coffre-fort du trésor public. Le dossier corruption est un gigantesque iceberg qui mériterait d'être largement exploré. Mais au risque et péril des enquêteurs, de nombreux autres pays sont également minés par le phénomène. Mon interlocuteur reprend la parole pour me raconter l'histoire suivante. Au début des années 1950, à l'époque du général Perón, les pertes d'Hachette étaient considérables. On peut le révéler maintenant, les Argentins n'avaient pas respecté leurs engagements. Après avoir dit cela, le nom de Pierre Lazareff apparaît dans la bouche de Jean Musset, qu'il a en effet bien connu puisqu'il a travaillé un temps avec le grand journaliste afin de promouvoir la presse française en Europe. Homme très aimé, ce personnage généreux, un peu démagogue, n'avait pas la moindre notion de l'argent. Yves Courrière, son biographe, souligne-t-il, s'est au moins trompé sur un point concernant Pierre Lazareff. En vérité, il n'était pas venu de lui-même en Argentine pour écrire un article spontané sur Perón, mais avait cédé à la demande pressante du président d'Hachette de l'époque, M. Meunier du Houssoye. Celui-ci voulait que Lazareff fasse des articles favorables au général afin que, flatté, ce dernier accepte un arrangement financier. Manque de chance, à peine les papiers favorables à Perón étaient-ils parus que le dictateur avait été renversé. Dans son livre, Yves Courrière ne donne donc pas la vraie version de l'affaire. Je cite « En passe de gagner la bataille pour François, Pierre Lazareff décida au printemps suivant de prendre du champ et de s'envoyer lui-même en reportage en Amérique du Sud qu'il n'avait jamais visité. Des histoires croustillantes, Jean Musset en possède plus d'une dans son sac à malice. Il se souvient notamment avoir participé à un déjeuner à Rome en 1958 avec Gaston Paleschi, ambassadeur de France à Rome. Alors qu'ils écoutaient la conférence de presse du général de Gaulle qui, phénomène amusant, n'était diffusé qu'à l'étranger, voilà que Gaston Paleschi s'exclame « Le général parle pour l'histoire, jamais il ne prendra le pouvoir ». Ces propos tenus par un ancien directeur de cabinet de l'homme du 18 juin étaient plutôt défaitistes. Nous rions de bon cœur. De Gaulle fera l'indépendance de l'Algérie car il est le seul à pouvoir la réaliser.
Un événement
Une association.
Une œuvre.
Une fondation.
Tout ce qui mérite votre attention est dans Point de Mire.
En direct ou en médiathèque.
Sur Canal Académie.
L'entretien se recentre de nouveau sur l'Argentine. Que pense-t-il du président Menem? Réponse, c'est un pragmatique qui s'est efforcé de construire des routes, des dispensaires et des canalisations d'eau. Il a gagné les élections parce qu'il a distribué pas mal de terres à des familles nécessiteuses. D'une façon générale, il a été à l'écoute de ce qu'on appelle la Villa Miseria, l'équivalent des favelas brésiliennes, c'est-à-dire en français des bidonvilles. En dépit de ses qualités indéniables, Menem ne restera pas au pouvoir ad vitam aeternam, croit Jean Musset avec raison. Il considère que Chirac et Menem appartiennent à la race des pragmatiques. Grâce à eux, le dialogue entre Paris et Buenos Aires devrait reprendre de la fluidité. Et puis ajoute-t-il en martelant ses propos, je cite, « Vous le savez maintenant, dans l'ensemble, les Argentins aiment la France qui a été un pays exceptionnel et le reste dans bien des domaines. De nombreux responsables souhaitent que le modèle français reprenne de la vigueur et que la France redevienne un phare puissant dans les domaines culturels et économiques. » Il n'est pas faux de penser que l'influence massive américaine entrave le développement des relations entre nos deux pays, croit Jean Musset. Aussi bien en France qu'en Argentine, au moins 90% des étudiants apprennent l'anglais. De tels pourcentages, qui engagent hélas l'avenir, expliquent que sur le terrain linguistique, la présence française soit faible, surtout que la France a diminué son quota de bourses aux Argentins. Et comme peu de conférenciers, peu de professeurs de qualité viennent parler ici de la France moderne, on imagine les effets produits par une politique très restrictive. J'espère que la réalité croissante des nouveaux échanges économiques stimulera le moment venu le domaine culturel. D'autant plus que l'influence française persiste dans le droit, la politique, la médecine et les mathématiques. Dans ces divers domaines, Français et Argentins sont proches les uns des autres. En fait, pour rapprocher l'Europe et le monde latino-américain, Jean Musset est persuadé qu'il faudrait essayer de régler le problème majeur de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire supprimer la mauvaise gestion, ce qui permettrait à ces pays de décoller enfin. Seul le Chili échappe à sa critique, tandis que la crise sévit aussi bien au Mexique, au Brésil qu'en Argentine, le Chili, lui, s'en tire mieux. Ce n'est pas le cas du Paraguay. À l'heure actuelle, la généralisation de la corruption ne facilite pas un redressement de la situation. Après avoir vécu tant de belles années sur cette terre, Jean Musset ne cache pas qu'il est très attaché à l'Argentine, à cette géographie continentale, tant de fois survolée par Mermoz et ses compagnons. Subjugués tous les deux par l'histoire de l'aéropostale, nous évoquons l'un des derniers survivants de cette épopée, Jean-Gérard Fleury, lequel habite à Rio de Janeiro, avec Joseph Kessel et Antoine de Saint-Exupéry. Il appartient au groupe des écrivains les plus talentueux de l'aéropostale. Le monde de l'aviation passionne visiblement mon hôte, qui se souvient avoir connu un pilote chargé de couvrir les lignes du sud de l'Argentine entre 1955 et 1970. Il se nommait Pierre Chenal. C'était un pilote inouï, toujours prêt à voler sur les lignes les plus difficiles, champion de l'atterrissage, ce casse-cou affrontait les pires vents de l'Argentine. Et soudain, Jean Musset, décidément mis en confiance, me parle de son jardin secret. Entre lui et l'Argentine, une véritable histoire d'amour existe bel et bien. Non loin de la frontière avec le Paraguay, il a acheté il y a 25 ans avec des associés 40 000 hectares de terre situés dans la région de Formosa. Aujourd'hui, il ne lui en reste plus que 6 700, mais cela lui suffit amplement pour être heureux. Cette terre, il l'appelle son paradis nimbé de lumière pampéenne. Pampéenne vient de Pampa. Le charme profond de la Pampa n'est, paraît-il, sensible qu'aux natifs, à l'ascète ou à l'esthète. Mon hôte appartient sans hésitation à la troisième catégorie. Dans son estancia, il s'agit d'une ferme traditionnelle, aidée d'une douzaine de personnes, il élève 50 chevaux et 3000 têtes de bœuf. Ses employés cultivent même le coton sur 150 hectares. Ce père de 4 enfants me raconte ses promenades à cheval. Pour effectuer le tour complet de son domaine, il lui faut pas moins de 3 jours. À aucun endroit, il ne voit les limites de sa propriété. Il paraît que les millions de bovins, d'ovins et de chevaux nourris par les herbes de la Pampa n'ont pas pour autant fait disparaître renards, sarigues, fouines, chats sauvages et autruches. Aussi m'exhorte-t-il à découvrir ce territoire verdoyant, immense et coloré que peuple une multitude d'oiseaux. L'oiseau-mouche, connu pour son vol bleuté, forme avec d'autres espèces comme le martin pêcheur ces étincelles symboliques, vivant, animant en permanence la pampa, ces théories d'oiseaux profitent des bienfaits de chaque oasis signalée par la chevelure musicale des saules pleureurs. Les distractions les plus appréciées de mon interlocuteur restent les chevauchées interminables à travers la plaine, la participation aux cérémonies épiques où l'on marque au fer une partie du troupeau et bien entendu la pétissante confection de l'assado, le fameux rôti cuit en plein air. Ainsi vit un Français d'étranger président d'Edicial, société qui diffuse la presse française, importe des livres d'enseignement, des livres d'art et de littérature, édite des livres scolaires et universitaires, cet homme qui est apprécié par l'élite argentine poursuit son rêve constructeur à cheval entre Paris et Buenos Aires et la Pampa, tel un personnage de roman qui aurait pu inspirer Drieu, La Rochelle. Jean Musset est un bel exemple de réussite française en terre argentine, si peu étrangère à notre esprit, à certaines de nos valeurs, à notre culture, pour peu que le vent violent de la dictature cesse d'y souffler. C'est la fin de cette deuxième émission sur Jean Musset. Je vous rappelle que vous pouvez parfaitement télécharger cette émission, ces deux émissions, gratuitement bien entendu, dans notre médiathèque.